soul,
jazz,
hip hop,
folk,
reggae,
rock,
disco,
blues,
funk,
punk,
samba,
metal,
rap,
electro,
dub,
grunge,
grime,
and
house, techno.
Voyage immobile.
Installez-vous confortablement et préparez-vous pour une exploration musicale à la découverte de paysages sonores méconnus.
Vous êtes sur Radio MDM pour votre émission Voyage Immobile, émission spéciale qui sera en deux émissions, deux parties, sur l'histoire de la musique à Détroit.
Et oui, parce que bon, Détroit, il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a énormément de musiciens qui sont originaires de cette ville. Il y a même des styles musicaux qui y sont nés. Détroit, c'est donc une ville des États-Unis dans le Michigan, qui est un état du nord-nord-est. Détroit, c'est vraiment à la frontière du Canada. Il y a un pont, on le traverse, et on est au Canada, quoi. Et voilà, donc on va commencer à peu près à partir des années 20, et puis on ira dans la deuxième émission jusqu'aux années 2000.
Voilà, on va commencer directement à partir des années 20, puisque à cette époque-là, il y avait énormément d'Afro-Américains qui sont arrivés dans la ville pour pouvoir trouver du travail. C'était une ville en expansion et avec beaucoup de taf, en tout cas
dans l'industrie automobile, énormément d'usines de voitures, les usines Ford, les usines Chrysler par exemple.
Voilà, exactement. Et en arrivant là, ils se sont tous retrouvés dans le même quartier, vu que la ségrégation raciale était encore de mise dans le pays. Donc ils se sont tous retrouvés dans le quartier de Black Bottom, au sud de la ville.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment un quartier juste pour la population afro-américaine. Et il était collé à un autre quartier aussi pour la population afro-américaine qui s'appelait Paradise Valley. Et Paradise Valley, on l'a appelé le Las Vegas de Détroit. Donc en fait, c'est parce qu'il y avait tous les clubs et toutes les salles de concert de la ville à l'époque du jazz.
Oui, dès les années 20, il y avait plus d'une douzaine de clubs déjà montés. Des clubs de jazz principalement, qui étaient dans les rues donc de Saint-Antoine et de Old Hastings, dans les quartiers de Paradise Valley. Et tous les gens venaient justement écouter les groupes de jazz le soir et les week-ends danser dans ces quartiers-là.
Ouais, et même d'ailleurs la population blanche venait aussi juste pour écouter la musique. Et c'est normal parce que il y avait donc cette énorme salle de concert qui s'appelait la Greystone Ballroom, qui deviendra l'Orchestra Hall, donc la salle de concert principale de la ville, qui a ouvert en 1922. Et il y a énormément de grands noms du jazz qui y sont venus. Il y a Ella Fitzgerald, il y a Nat King Cole, Billie Holiday, Louis Armstrong, Cab Calloway, même Duke Ellington.
Oui, et tous ces artistes-là, après avoir joué au Greystone Ballroom, se retrouvaient dans des plus petits clubs en deuxième partie de nuit. Notamment, on peut citer quelques clubs comme le Club Three Sixes. Il y a aussi le Night Club, qui était en fait une cave en bas d'un hôtel où il n'y avait aucun horaire de fermeture. Donc ils allaient tous se retrouver là-bas pour jammer et improviser.
Ouais, c'est ça. Et du coup, ça a permis à plein de musiciens originaires de Détroit, des jeunes, de voir ces grands noms jouer voilà, dans un contexte un peu plus intime. Et par exemple, il y a une petite anecdote que je trouve marrante, c'est que Kenny Burrell et Tommy Flanagan, donc tous deux originaires de Détroit, quand ils étaient gamins, ils étaient encore mineurs, donc ils ne pouvaient pas normalement rentrer dans ce genre de club. Et ils se sont peints des moustaches pour pouvoir rentrer dans le club, voir jouer Duke Ellington. Et voilà, donc énormément de ces jeunes musiciens en fait, sont devenus après des grands noms lors de la seconde vague du bebop, le hard bop à New York. Et il y en a vraiment un énorme paquet qui viennent de Détroit. Et après, il y a eu deux albums qui s'appellent Motor City Scene, qui est un en 59 et un en 60. Et là, il y a à peu près tous les gros noms du jazz, de ceux qui viennent de Détroit. Donc il y a Tommy Flanagan dans ces deux albums, le pianiste qui a joué notamment beaucoup avec Coltrane. Il y a aussi un des plus grands contrebassistes du jazz qui est Paul Chambers, qui faisait notamment partie du premier quintet de Miles Davis. Donc voilà, si c'est un style de musique qui vous intéresse, ça, le bebop, hard bop, je vous conseille vraiment beaucoup ces deux albums. Le premier de 59, il est dirigé par Thad Jones, qui est un grand trompettiste. Il y a Tommy Flanagan, il y a Paul Chambers, il y a aussi Elvin Jones, qui est le frère de Thad Jones, et qui est le batteur notamment du quartet de Coltrane. Le deuxième album aussi, qui s'appelle Motor City Scene aussi, là on a Donald Byrd qui le dirige, donc aussi un grand trompettiste qui a été le trompettiste des Jazz Messengers notamment. Il y a Kenny Burrell dont je vous parlais tout à l'heure, encore Paul Chambers et Louis Hayes à la batterie. Et aussi mention spéciale pour deux musiciens dont je ne vous ai pas encore parlé. Il y a Youssef Latif, donc l'espèce d'ovni du jazz fusion qui vient de cette scène, voilà, où ils se connaissaient tous à Détroit. Et aussi Curtis Fuller, tromboniste qui a joué notamment sur Blue Train et qui a été le tromboniste des Jazz Messengers également.
Voilà, et un autre grand artiste dont on voulait parler aujourd'hui, c'est Dizzy Gillespie, puisqu'il a contribué à la musique de Détroit en venant s'y installer, en créant son propre label, qui s'appelle DG Records, dans l'optique de pouvoir avoir le contrôle sur ses musiques, sur ses productions, chose qui était très rare en fait aux États-Unis, et c'est Détroit, la première ville en tout cas des États-Unis, où les Noirs avaient vraiment le contrôle sur leurs clubs, ceux qui étaient les propriétaires des clubs, et sur leur musique aussi.
Voilà, donc en fait c'est pour ça qu'il est venu là, pour fonder ce label. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré que quelques années, mais il a pu faire quelques enregistrements très intéressants, notamment avec le vibraphoniste Milt Jackson, qui fait partie, voilà, de ces musiciens de Détroit aussi. Et nous, on vous a choisi donc un titre qui s'appelle Burke's Work, et c'est le premier enregistrement, c'est le premier solo enregistré de Kenny Burrell à la guitare. Et c'est aussi un des tout premiers enregistrements de Coltrane, qui venait d'être le protégé d'un peu de Gillespie. Donc voilà, pour la première musique, on s'écoute ça, c'est Burke's Work de Dizzy Gillespie.
C'était Burke's Work de Dizzy Gillespie, un morceau de jazz venant de Détroit. jazz qui s'est développé jusqu'aux années 50, donc des années 20 aux années 50 avec différents styles de jazz. Et une autre scène qui s'est développée aussi dans les mêmes quartiers à partir des années 40, là c'est le blues de Détroit, avec aussi énormément de grands noms qui sont sortis de cette ville et de Paradise Valley à l'époque. Donc on peut commencer à citer des gens comme Boogie Woogie Red, Big Masso, Meriwether, Washboard Willie, Dr. Ross, Eddie Guitar Burns, et aussi un autre grand nom qui était John Lee Hooker.
Et oui, John Lee Hooker, donc originaire du Mississippi, il est monté à Détroit comme la plupart des gens qui faisaient du blues là-bas. Et il enregistre son premier single, qui sera aussi d'ailleurs son premier tube, dans cette ville de Détroit, alors que lui, il bosse, son travail, c'est de passer le balai dans une des usines de voitures. La chanson, c'est Boogie Children, donc Boogie Children en fait, mais avec son accent. Et c'est une chanson qu'il a écrite en arrivant à Détroit, en arrivant dans ce quartier de Black Bottom, et ça parle... voilà, de ce quartier, de cette scène effervescente et de la musique, des gens qui dansent, tout ça. Donc voilà, ça c'est pour la chanson. Après, pour l'enregistrement, à cette époque-là, c'était quand même assez compliqué parce que très peu d'endroits pour enregistrer. Il arrive à rencontrer le propriétaire d'un des seuls studios de la ville et c'est assez folklorique quand même l'enregistrement, puisque donc quand il arrive, il est installé sur des palettes pour pouvoir en fait taper du pied. Ils avaient mis un micro en dessous et qu'on entende le bruit de ses pieds. Et le son de sa guitare, ils mettent un micro dans sa guitare, ils emmènent le son dans la cuvette des toilettes pour faire une espèce de chambre d'écho, que le son rebondisse contre l'eau et qu'il le recapte après. Donc c'était tout de même primitif comme technique d'enregistrement. Mais voilà, la chanson a été un énorme, énorme tube qui a permis à John Lee Hooker, même s'il s'est fait sucrer la plupart de ses royalties, d'arrêter de travailler à l'usine et de vivre de la musique. Donc ben, on va se l'écouter de suite, c'est Boogie Children de John Lee Hooker.
Down Hastings Street, I heard everybody talking about the Henry Swain Club. I said I'd drop in there that night, and when I got there, I said, yes, people, yes, they were really having a ball. Yes, I know. Boogie Children. I was laying down. I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama to let that boy boogie woogie, 'cause it's in him and it got to come out. Well, I felt so good, and I went on boogie woogie just the same. Yeah. Thank you.
Voilà, on vient de s'écouter le tout premier morceau de Johnny Hooker enregistré à Détroit. Bon, après, il a pu aussi continuer à enregistrer, à jouer dans les quartiers sud de la ville, notamment à Paradise Valley et à Black Bottom.
Oui, et au bout d'un moment, il est quand même allé à Chicago, puisque Black Bottom et Paradise Valley, dans les années 50, en fait, ça a été rasé. Il y a eu un plan de renouveau urbain. Voilà, en fait, maintenant, c'est une autoroute et ils ont complètement rasé tous ces quartiers.
Ouais, il faut savoir que c'était des quartiers compliqués. C'était des quartiers très pauvres. Il y avait énormément de prostitution, de drogue, de ouais, corruption.
De crime organisé.
Voilà. Et le maire de la ville ne voulait tout simplement...
Plus que ça existe.
Voilà. Il a décidé de tout raser après des émeutes raciales au lieu d'essayer de refaire vivre le quartier en injectant un peu d'argent dans des infrastructures. Il a décidé de tout simplement tout raser.
Mais bon, quand même, l'héritage de ce quartier et de la musique qui était jouée est très complètement conséquent pour la ville. Et ça va être le cas dans la suite en fait de la musique à Détroit, qui est bien évidemment la Motown. Ce légendaire studio d'enregistrement. Et ça commence avec son propriétaire, un mec qui s'appelait Berry Gordy.
Oui, alors lui, toute sa jeunesse, il l'a passé justement à Paradise Valley, à Black Bottom, à voir tous ces artistes, à les écouter surtout. Il passe énormément de temps chez Disquaire aussi, et c'est ce qui lui a donné l'idée de lancer sa première entreprise, en fait, un magasin de disques avec sa famille. Bon, malheureusement, ça n'en a pas fonctionné, mais il s'est pas découragé pour autant. Il a décidé de lancer son propre label, qui s'appelait le Tamla Record à la base. Donc il a lancé ça avec le peu d'argent qui lui est resté et un peu d'argent emprunté à sa famille. Et voilà, le Détroit a vu la naissance de Tamla Record en 59 exactement.
Ouais, et Berry Gordy, en fait, son plus grand talent, c'est de savoir dénicher des talents, justement, de savoir bien s'entourer. Et une des premières personnes qu'il recrute, c'est un mec qui s'appelle Barrett Strong. Et c'est avec lui qu'il va écrire le tout premier hit pour ce qui s'appelle pas encore la Motown bientôt, qui s'appelle Tamla Records encore. Et ce sera la chanson Money, That's What I Want. Et voilà, qui est donc écrite et chantée par Barrett Strong. Barrett Strong qui restera un des paroliers affiliés à la Motown. Donc bah, je vous propose qu'on se l'écoute de suite et on continuera ensuite l'histoire de la Motown.
You can give them to the birds and bees. I need fun.
C'était Money de Barrett Strong, le premier hit produit par la Motown, originalement la Tamla Records. Et suite à ce succès, le patron du studio Berry Gordy et son associé de l'époque, Smokey Robinson, décident de s'implanter dans le plus grand boulevard de la ville, qui est le West Grand Boulevard. Et à partir de là, bah, ils ont commencé à énormément se développer et à acheter beaucoup de buildings dans, dans ce boulevard, jusqu'au point où ils avaient plus de 450 employés à partir de 66 exactement, et plus de 11 buildings dans ce boulevard-là.
Et ouais, le plus connu, ou le principal d'ailleurs, c'était donc le studio d'enregistrement qui s'appelait Hitsville, qui vient évidemment des hits qu'ils produisaient. Et c'est donc là que vont être réalisés quelques-uns des plus grands morceaux de soul et de rhythm and blues de l'histoire des États-Unis. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, Berry Gordy, c'est quelqu'un qui sait super bien s'entourer et il va recruter un groupe de studio comme vous en avez parlé dans notre premier épisode avec les Swampers. Et bien à la Motown, il y a les Funk Brothers, toute une section rythmique et une section cuivre. Voilà, le plus connu est probablement le bassiste James Jamerson, qui a eu une énorme influence. Et il s'entoure aussi de paroliers, voilà, de gens qui écrivent des chansons et de producteurs. Et encore une fois, voilà, les principaux, ce sera un trio qui s'appelle Holland Dozier Holland. Donc voilà, les deux Holland, c'est deux frères. Et dont un qui écrit les paroles et qui fait les arrangements vocaux. Et les deux autres font la composition musicale et produisent, voilà, sont derrière la table de mixage et choisissent les arrangements des musiciens.
Ça va permettre à beaucoup d'artistes de se lancer grâce à Studio, notamment plusieurs noms comme les Miracles, The Marvelettes.
Ouais, Martin and the Vandellas aussi, les Four Tops.
Voilà, en tout début des années 60, après évidemment il y aura d'autres grands noms dont on va parler après. Mais on voulait vous parler tout d'abord des premiers groupes qui se sont lancés dans les années 60 avec la Motown. Donc c'était généralement des groupes de vocalistes qui faisaient de la soul
ou du doo-wop, voilà, ce genre de choses.
Notamment un grand groupe qui a vu une carrière solo après avec Diana Ross, mais là elle était avec les Supremes.
Et ouais, les Supremes, donc, qui sont un des groupes phares vraiment de la Motown et qui sont de toute façon un des plus grands groupes dans l'histoire de la musique pop. Et voilà, là on va pouvoir vraiment entendre ce qui fait les spécificités du son de la Motown, donc voilà, le son des Funk Brothers. Et c'est écrit, tous les tubes des Supremes sont écrits par ce trio Holland Dozier Holland, parce que chaque producteur avait un petit peu ses artistes attitrés là-bas. La chanson qu'on va s'écouter, c'est un des premiers tubes, le premier énorme tube des Supremes, c'est Where Did Our Love Go. Et en plus de tous ces instruments, de tous ces éléments musicaux propres au son de la Motown, il y a quelque chose, j'ai remarqué ça en préparant l'émission, il y a quelque chose vraiment spécifique aux Supremes, au plus grand hit des Supremes, c'est qu'il y a toujours un vibraphone, donc cet instrument qu'on a entendu sur la première chanson. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément, qu'on retrouve très rarement dans par exemple les Temptations ou Martin and the Vandellas. Et c'est pourtant présent sur tous les grands hits des Supremes. On peut s'entendre ça dans Where Did Our Love Go des Supremes, qu'on s'écoute de suite dans Voyage Immobile. So bad.
C'était les Supremes sur Radio MDM. On se retrouve à la fin des années 60 à Détroit. Et la Motown est un des labels les plus importants du pays. Ils ont pu produire des artistes comme les Jackson 5, Marvin Gaye ou même Stevie Wonder. Ils ont aussi créé plusieurs sous-labels, un label spécialisé dans la soul, un label spécialisé dans la country même.
Et évidemment, la musique évolue et même à l'intérieur même de la Motown, puisque donc, comme je disais, il y avait pas mal de producteurs différents et de certains comme Holland Dozier Holland, plus traditionnel, plus classique, et d'autres comme Norman Whitfield qui a vraiment fait avancer la musique, des fois même un peu en conflit avec Berry Gordy qui lui a refusé quelques-unes de ses chansons au début, notamment je pense à I Heard It Through the Grapevine de Marvin Gaye. Il a aussi écrit la chanson War d'Edwin Starr. Et donc lui, il était partenaire avec Barrett Strong, donc celui qui avait chanté le tout premier hit de la Motown. Et il s'occupait donc de Marvin Gaye, par exemple, mais il s'occupait notamment des Temptations. Et c'est probablement avec ce groupe qu'il a le plus poussé ses expérimentations musicales, jusqu'à inventer en fait un sous-genre qu'on appelle la soul psyché.
Oui, on peut commencer à entendre ce style dans le 7e album des Temptations qui sort en 69, qui s'appelle Cloud Nine, où on peut commencer à entendre le son mélangé de soul et de psychédélique, notamment au travers des effets utilisés. Et ça va avoir aussi une énorme influence ensuite.
Oui, sur la musique de Détroit en général. Parce qu'en fait, bon, entre-temps, il y a la funk qui est arrivée, il y a toutes ces musiques psychédéliques avec de la guitare. Et à la fois, ça va s'en nourrir et on le verra après, ça va. Il va le redonner à la ville qui va se épuiser aussi.
Voilà, donc on vous propose d'écouter le morceau Cloud 9 des Temptations sorti en 69.
Reality,
reality,
all the same.
C'était donc Cloud9 des Temptations à l'instant dans Voyage Immobile sur Radio MDM. Et on est à un moment charnière dans la musique de la Motown. Voilà, vraiment ça commence à évoluer. Ils essaient en tout cas, que ce soit des artistes, des musiciens, des producteurs, ils essaient de faire évoluer leur musique, ce qui n'est pas forcément très bien reçu par Berry Gordy. Par exemple, Stevie Wonder, qui a commencé sa carrière tout petit à la Motown, il part parce qu'il a envie de faire ses expérimentations tout seul. Et, mais par contre, il y en a quand même qui essaient de faire ça en interne, et c'est le cas par exemple de Marvin Gaye.
Oui, et Marvin Gaye, ça fait un moment déjà qu'il essaye d'avoir un peu plus de poids dans le studio pour pouvoir écrire des messages qui lui tiennent à cœur, d'expérimenter aussi au niveau de la musique, mais surtout de parler de choses qui importent, en tout cas pour lui, par rapport aux problèmes sociaux qu'il y a dans le pays, aux problèmes raciaux aussi. Et c'est ce qu'il va réussir à faire en 71, en sortant l'album What's Going On, où il va faire une sorte d'album concept, en fait, où il va prendre la voix d'un vétéran du Vietnam qui revient après son service et qui découvre son pays, la pauvreté des gens, les problèmes sociaux, le problème de drogue aussi, de toxicomanie. Et ça va être un énorme succès, ça va être considéré comme un des meilleurs albums de la Motown, même si Berry Gordy n'était pas forcément chaud au départ pour pouvoir le produire.
Oui, c'est un peu l'équivalent pour la Motown de ce que l'album Hot Buttered Soul de Isaac Hayes a été pour la Stax. Et sauf que à la Stax, ça a entraîné vraiment une renaissance du label. Alors que là, voilà, bon, il aurait pu suivre, il n'a pas forcément suivi. J'imagine qu'il était content de recevoir l'échec, mais il n'est pas allé tellement plus loin.
Et d'ailleurs, ça annoncera aussi le fait que les studios de la Motown vont partir de Détroit en 72. Ils vont s'exiler à LA pour plus de facilité. C'était là où il y avait toute la musique qui se faisait, tous les plus grands artistes. Et ils voulaient plus s'embêter, en fait, avec la ville de Détroit. Et c'était le meilleur moyen, en fait. C'était soit LA, soit New York. Donc ils sont partis à LA.
Ouais, c'est notamment là qu'ils ont produit beaucoup de hits pour les Jackson 5, et ils ont plus ou moins remplacé de fait les Funk Brothers avec un autre groupe de studio légendaire sur LA qui s'appelle le Wrecking Crew.
Voilà, on termine cette page de Détroit avec le morceau What's Going On de Marvin Gaye, produit par la Motown.
Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket line. Signs. Don't punish me, sister, with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see. Sister, oh, what's going on? Oh, but who are they to judge us?
simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it loud and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh.
Right on, right on.
C'était What's Going On de Marvin Gaye et une page se tourne après le départ de la Motown en 72 de Détroit. Ça va être un petit coup dur pour la ville, musicalement parlant, mais ça va permettre à d'autres scènes d'émerger, d'autres scènes parallèles, d'émerger de la contre-culture dans les années 70.
Eh oui, notamment, on vous avait parlé pas mal de la scène de Détroit quand on avait fait l'émission sur le proto-punk. On avait parlé du MC5, on avait parlé des Stooges. Et il y a aussi un autre groupe qu'on s'était un peu gardé, parce que c'est aussi c'est un groupe assez obscur, c'est un groupe qui s'appelle Death. Et ça, c'est trois frères qui ont commencé à jouer de la musique à la base. Ils faisaient un groupe de funk dans leur garage, voilà. Et ils ont, après avoir vu un concert des Who, apparemment, ils ont décidé de se mettre à ce qu'on appellera après le proto-punk, mais voilà, un rock assez violent. Et eux, en fait, bon, ils étaient vraiment pas du tout connus. D'ailleurs, les petits titres qu'ils ont enregistrés ne sont pas sortis à l'époque. C'est quelque chose qu'on a retrouvé bien après, dans les années 2000, mais c'est quand même, voilà, musicalement, c'est très intéressant. Et puis pour la richesse historique, voilà, par rapport à la musique de cette ville de Détroit. On vous propose d'écouter de suite la chanson Politicians in My Eyes du groupe Death. One, two, three, now. We'll be right back.
stupid things that you do to them, because you're their biggest friends. Politicians in my eyes.
S'écouter Politicians in My Eyes de Death et on arrive là, on est à peu près dans le milieu des années 70, début milieu des années 70 et c'est là qu'on va s'arrêter pour cette première partie de la musique, l'histoire de la musique à Détroit. On a quand même vu pas mal de choses, pas mal de scènes émerger, bon forcément voilà, en suivant l'histoire de la musique mais toujours avec leur particularité, la particularité du fonctionnement de Détroit et son caractère unique.
On va se quitter avec un dernier morceau d'un artiste qui s'appelle Sixto Rodriguez, qui lui aussi vient de Détroit. Il a grandi dans les années 40-50 et il a pu voir toute la scène jazz, blues et la Motown émerger à Détroit. Alors lui, il a une petite particularité, il a fait que deux albums qui n'ont pas très bien marché. Heureusement, ils sont revenus au goût du jour dans les années 2010 grâce à un reportage sur lui. D'ailleurs, je vous le conseille, c'est Searching for Sugarman.
Et oui, parce qu'en fait, il se trouvait qu'il avait une grande popularité en Afrique du Sud et en Australie.
C'est ça, c'est ça. Tout simplement parce que ses paroles, c'était un très bon parolier, il faisait énormément de...
De protest song, ce genre de trucs.
Exactement. Il décrivait ce qui se passait dans sa ville, les problèmes de pauvreté, les problèmes raciaux, les problèmes à cause de la drogue. Et ça avait... un message assez retentissant dans les pays comme l'Afrique du Sud par exemple avec ce qui se passait avec l'apartheid. Et du coup, ce mec, il a travaillé toute sa vie en tant que charpentier à côté de ça. Et il a recommencé après à faire des lives à 70 ans passés dans les années 2010-2020. Et on va se quitter avec un titre de son premier album qui s'appelle Cold Facts. Et le titre, c'est 8th Street Dialogue, où il montre à quel point sa ville est laissée à l'abandon par les politiciens.
Et nous, on se retrouve donc le mois prochain pour poursuivre cette historique de la musique à Détroit. Donc, on vous donne rendez-vous pour ça et d'ici là, passez une bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke your blind, the lust will choke your mind. I kiss the floor, one kick no more. The digging hoes have set me free. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. Kiss the floor, one kick no more. The digging hoes have set me free. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. The inner city birthed me. The local pusher nursed me. Cousins make it on the street. They marry every trick they meet. A dime, a dollar, they're all the same. When a man comes in to bust your game, the turnkey comes, his face a grin. Lots to sell, I'm in again. I kiss the floor, one kick no more. The pig and hoes have set me free. I tasted hate streets hanging trees. 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 I tasted hate streets.